en dire et des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Mickaël Goncalves.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un roman vraiment singulier, beau et piquant comme une rose, brut, intense et cru comme la lumière du désert. Un roman plein de noirceur, mais un roman jaune comme le sable de Mauritanie, rouge comme le sang menstruel et l'amour passionnel. Son premier roman s'appelait Fugitif parce que reine, et là encore il s'agit d'une fuite, un exil volontaire pour se retrouver, pour se comprendre aussi, comprendre la femme qu'elle est devenue. Un récit d'apprentissage du monde et de la vie, du sexe et de l'amour. Rose désert de Violaine Huysmans est paru chez Gallimard, et vous m'en dirai des nouvelles. Bonjour Violaine Huysmans.
Bonjour, merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Le livre, il est en trois parties, assez inégales d'ailleurs en termes de volume. La première et la troisième partie commencent à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Ici, la narratrice est là, en terre africaine, et dans une ville qui n'est pas n'importe quelle ville, puisque c'est une ville qui est située en plein désert. C'est pourquoi ? C'est par envie, c'est par besoin ou c'est par nécessité ?
C'est par nécessité, et j'aime ce mot de nécessité aussi parce que pour moi il répond aussi à la nécessité d'écrire. Et je pense que ce voyage, comme vous le dites, c'est un voyage initiatique quelque part, c'est un roman d'apprentissage, mais à une mode un peu particulière parce que finalement on ne sait pas très bien ce que cette narratrice apprend. Elle se perd surtout, et peut-être c'est ça aussi, l'apprentissage de
donc,
se perdre.
Donc nécessité, c'est-à-dire que pour elle, à ce moment-là de sa vie, il est nécessaire pour elle de se perdre, de ne pas savoir où aller, mais d'aller.
Exactement, oui. Elle a l'impression, suite à un chagrin d'amour terrible, qu'elle ne va pas réussir à se relever. Et donc, elle décide d'aller le plus loin possible et dans la fuite la plus inconséquente possible, c'est-à-dire de traverser le désert.
Réfugiée affective, c'est l'expression que vous employez pour désigner le personnage. Réfugiée affective, donc on sent effectivement que c'est aussi une histoire de cœur que ce départ, que cette fuite. Dans le terme réfugiée, il y a aussi la notion de protection de l'annuissement, et donc la notion de danger. Et là, on a plutôt l'impression inverse, c'est-à-dire on a l'impression au contraire qu'elle guette le danger.
Oui. La narratrice utilise ce terme de réfugié affectif pour parler de sa fuite vers les États-Unis. Et là, dans le désert, je suis pas sûre qu'elle soit exactement réfugiée. Je pense qu'elle est plutôt dans une fuite en avant, effectivement. Dans une quête de danger ou de déperdition ou de précipice.
Oui, alors vous décrivez effectivement, sinon une tête brûlée, du moins quelqu'un de complètement inconséquent, hein, une expatriée qui se balade dans les rues de Nouakchott sans son passeport, avec des chaussures qui sont tout sauf adaptées à l'endroit, qui ignore absolument tout de la géopolitique et notamment du conflit, de la crise du Sahara occidental. On a un peu l'impression d'une oie blanche, Violaine Huysmans. Presque d'une écervelée. Je dis presque.
Presque parce que elle est finalement quand même assez débrouillarde, elle s'en sort. Elle réussit à se déplacer, déjà, ce qui n'est pas si simple, en fait.
Elle a une bonne étoile et puis elle tombe sur Serge, quand même. Alors, vous pouvez nous présenter Serge, parce que Serge, c'est presque, quand on a un petit peu vécu l'Afrique, quand on a parfois l'habitude d'y aller, c'est presque un archétype, le personnage de Serge.
C'est exactement un archétype, en fait. Et Serge, c'est le personnage qu'elle rencontre dans les premières pages du roman. C'est lui qui a les premiers mots du livre. Il dit, il n'y a rien qui bouge. Et Serge, c'est cette figure patriarcale de l'ex-colon, en l'occurrence ancien légionnaire, mais il pourrait faire un peu n'importe quoi. C'est le vieux blanc baroudeur qu'on retrouve en Afrique, un peu comme vous dites, dans toutes les capitales africaines, qui, voilà, est un peu islamophobe de base, mais bon, pas plus que ça, un peu raciste de base, mais pas plus que ça, qui a plutôt un bon cœur aussi, mais qui est quand même complètement dans ses clichés, dans cette perspective politique d'un temps passé.
Et c'est avec Serge que la narratrice va connaître, on va dire, le Nouakchott by night. Alors c'est assez curieux, hein, ce qui lui arrive, parce que Serge est très protecteur. Il y a une part de, comment dirais-je, de transmission aussi, hein, dans le contact, dans la relation qu'il peut y avoir entre la narratrice et Serge. Il y a une forme d'attirance-répulsion. Il y a quelque chose de pas très sain, quand même, à la base.
Oui, il y a quelque chose de pas sain du tout. Serge, c'est aussi le nom du grand-père de la narratrice.
Ça, on le découvre bien plus tard dans le
roman. Qu'on découvre bien plus tard dans le livre, qu'on peut savoir éventuellement si on a lu Fugitif par Coran et qu'on a vraiment fait attention au nom des personnages. Et voilà, c'est la figure du prédateur, en fait. C'est cette figure du prédateur, encore une fois, qui correspond, compte tenu du paysage, à cette histoire coloniale aussi. Et pour elle, c'est cette figure patriarcale contre laquelle elle s'insurge et contre laquelle elle veut s'émanciper. Et en même temps, voilà, il est là, elle est perdue, elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas comment faire, et lui, de fait, la protège. Et lui, finalement, n'est peut-être pas si prédateur que ça.
Il faut lire le roman pour effectivement le vérifier. Alors, on a posé les bases du contexte, hein, Viola Nuissement. Donc, cette jeune femme, un peu oie blanche, pour reprendre l'expression que j'utilisais à l'instant, protégée sans réellement l'être par ce Serge, qui l'emmène donc dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, le soir à Nouakchott, un endroit pas forcément extrêmement sécurisé. Elle rencontre des hommes et puis un matin, elle se réveille après une soirée arrosée. Nous sommes page 54 de votre roman.
Je m'avise de sculpter mon corps. Griffure, contusion, pas de traces apparentes. Nue, à l'exception de ma culotte. Comme chez le médecin, vous pouvez garder votre slip, mademoiselle. Dans quel livre une femme est retrouvée morte deux culottes l'une sur l'autre? Dans mon coma éthylique, est-il possible que j'ai pensé à tout retirer, hormis ma culotte? Si je ne me suis pas déshabillée seule, pourquoi garder mes fesses couvertes? Refoulant un haut-le-cœur, j'entreprends de me lever. Fumer une clope. Mais non, je sens que ça ne va pas aider. Me regarder dans une glace, dans le trou noir de ma rétine, recouvrer les détails évanouis dans le précipice de l'ivresse. J'oublie qu'il n'y a de miroir nulle part ici. Debout. Debout. Oh putain, ça tangue. Je suis sûre de n'avoir rien à vomir que de la bile. Boire de l'eau, boire beaucoup d'eau. Je retrouve ma bouteille en plastique vide de la veille. Je n'ai pas le courage de descendre jusqu'au bar ou à la réception en acheter une autre. Je vais la remplir dans le lavabo de la salle de bain attenant à ma chambre, purifiée avec les pastilles adéquates. La bouteille ne tient pas dans la vasque du lavabo. Je la place sous le robinet de la baignoire. L'eau s'écoule au compte-goutte, ni froide, ni chaude, tiédasse. Il m'est trop difficile de me tenir courbée en avant en attendant que cette bouteille se remplisse. J'enjambe la cuvette qui tient lieu de baignoire. Est-ce que j'ose toucher l'intérieur de mon sexe? Et quelle preuve y trouverais-je? Je glisse le majeur et l'annulaire entre les lèvres de ma vulve, les écartant de l'autre main. Je les porte à mes narines. Pas d'odeur particulière, ni de caoutchouc, ni de sperme. Je me rince les doigts, dégoûté. Attendre que les pastilles fassent effet dans la bouteille. Une mare minuscule se répand dans mon dos. La faïence est fraîche. Toujours pas de lésion évidente sur son poussin. Le sobriquet que mon amant a donné à mon poussi, caressant affectueusement le duvet de ma toison. On nomme ce qui nous appartient, en désignant une chose, en l'exprimant par l'exercice du langage, on se l'approprie. Il s'était accaparé mon sexe à mon insu.
Viola Nuissement, est-ce qu'on peut s'accaparer? Est-ce qu'on peut voler? Est-ce qu'on peut dérober avec les mots, avec le langage?
Oui, c'est ce que les colons ont fait partout en Afrique, je crois, aussi. C'est ça aussi l'histoire de ce livre. Pour moi, ce que j'avais envie d'essayer d'explorer aussi, c'est ce que ça veut dire d'être une femme blanche qui fait du tourisme en Afrique, qui fait du tourisme au Sahara, compte tenu de l'histoire qu'on porte en nous en traversant ce pays. Et en particulier en Afrique de l'Ouest, où le français est encore une langue dominante. C'est extrêmement compliqué, je trouve.
C'est-à-dire que parler français aujourd'hui dans une région comme l'Afrique de l'Ouest, comme la Mauritanie, pour être encore plus précis, c'est une forme de violence?
D'avoir imposé le français comme langue en Mauritanie est une violence inouïe, je pense. Et je parle pas du fait que cette langue perdure aujourd'hui, qui suppose des questions géopolitiques extrêmement complexes. Mais le fait d'avoir imposé une langue, le fait que la colonisation a imposé partout dans le monde la langue française, je pensais d'une violence inouïe.
La langue, c'est le pouvoir?
D'une certaine manière, certainement la langue est un outil de pouvoir.
Y compris pour une écrivaine comme vous.
Y compris quand on prend la parole, je pense que en tant qu'écrivain, on a un certain devoir politique aussi de prise de parole sur des sujets qui, quand on les explore, vous faites une espèce de porte-voix quand vous écrivez. Et là, il y a une responsabilité qui vient avec.
C'est-à-dire que quand vous écrivez, par exemple, ce roman Rose Désert, Violet Nuissement, vous pesez chacun des mots que vous utilisez, vous sentez une responsabilité particulière en écrivant toutes les phrases.
Oui, oui, et parce qu'il y a des mots précis qui ont une histoire précise aussi. Et je pense qu'il faut prendre garde aux mots qu'on utilise.
Mais comment est-ce que vous les choisissez, vos mots? Parce que le moins qu'on puisse dire, et on l'a entendu dans l'extrait, mais c'est valable vraiment d'un bout à l'autre du roman, c'est que vous nommez les choses de façon extrêmement directe. Alors ça m'étonne votre réponse, parce que on a l'impression, à vous entendre, que vous utilisez les mots avec énormément de précaution, de prudence, alors que vos mots sont extrêmement violents, ils sont extrêmement directs, ils sont extrêmement cash, comme on dirait en franglais moderne.
On peut être prudent et cash à la fois, je pense. Et oui, je les considère avec beaucoup de précision. Et quand j'utilise un mot de communément employé ou de notre époque ou très cash, comme vous dites, je le fais en toute conscience et avec mûre réflexion.
Et avec quelle ambition ?
Avec l'ambition de représenter un moment donné de l'histoire qui est là aujourd'hui. Enfin, là en l'occurrence, le livre se passe en 2007 et il représente aussi une réalité politique et une réalité sociale d'il y a 12 ans. Donc c'est pas exactement là tout de suite, mais c'est l'histoire très contemporaine. Et ce que j'aimerais que mes livres portent en eux, c'est à la fois l'histoire de la littérature dans une espèce de classicisme littéraire dans lequel j'essaye de m'inscrire, et en même temps une langue d'aujourd'hui dans laquelle on peut aussi tout se reconnaître, enfin, qu'on entend dans la rue, qui est très proche de nous.
Est-ce que vous êtes une romancière sans filtre, Violaine Nuissement? Sans bouclier?
C'est vrai, oui. Oui, je pense que je ne m'épargne pas, en tout cas. Et pour moi, l'exercice de l'écriture est vraiment quelque chose de l'ordre... quelque chose d'un ordre extrêmement intime. Et ce que j'essaye de projeter aussi, c'est cette intimité-là pour que le lecteur puisse s'y reconnaître. J'ai l'impression que, voilà, le livre, c'est un des rares endroits où on n'est toujours que deux. Et donc, vous êtes vraiment dans une intimité absolue où vous n'avez plus rien à cacher, vous n'avez rien à perdre et rien à cacher en racontant ça. Et là, effectivement, en vous parlant à la radio, c'est un exercice public qui est très différent. Mais dans l'intimité de la page et du rapport au lecteur, je crois que c'est pas utile d'avoir de filtre. Au contraire, pour moi, ça serait contre-indiqué.
Il y a pourtant un mot que vous ne parvenez pas visiblement à écrire, à moins que ce soit un jeu, mais vous allez nous expliquer, c'est... un nom propre, c'est le nom de l'amant américain de Violaine, celui dont elle était amoureuse, dépendante, notamment sexuellement, celui qui a rompu avec elle, rupture dont on comprend très vite qu'elle ne s'est pas complètement remise. Pourquoi ne pas nommer cet homme? Pourquoi le laisser anonyme?
Le texte le dit, en fait, la narratrice essaye de lui donner un nom, mais elle se dit que de lui donner le sien, ce serait déloyal, parce que ce serait l'exposer plus publiquement. Et qu'en même temps, pour lui attribuer un nom fictionnel, il faut que ça corresponde quand même à une certaine cohérence sociale, géographique. Et donc elle essaye une soixantaine de variations, elle trouve pas, et donc elle se résout à l'appeler lui. Et après, oui, effectivement, c'est un peu un jeu littéraire aussi, c'est parce que le personnage est reconnaissable d'aucune façon, en fait. Il a pas vraiment de visage, il n'est pas du tout décrit physiquement, c'est presque l'amant avec un grand A.
Mais le personnage existe, parce qu'on se demande d'un bout à l'autre si l'on est dans un récit, si on est réellement dans un roman. Alors c'est marqué sur la couverture, hein, bon, comme il est d'usage dans la collection blanche de Gallimard. C'est de l'autofiction, un peu, beaucoup, pas du tout?
Oui, c'est beaucoup d'autofiction dans la mesure où, si vous voulez, c'est une expérience vécue mise à l'exercice du roman, du romanesque, donc mise à l'épreuve du romanesque, disons. Mais cet homme-là existe et n'existe pas, disons que c'est une espèce de composite de beaucoup d'hommes, enfin beaucoup, n'exagérons rien, de certains hommes avec qui j'ai pu avoir des relations, avec lesquels mes amis ont eu des relations. J'ai eu envie de présenter une espèce de portrait aussi d'un amour pour une certaine génération de femmes qui, je pense que d'autres femmes peuvent se reconnaître dans ce portrait.
Mais qu'en est-il de la narratrice? Parce qu'au début et à la fin du livre, vous dites « je », vous écrivez donc à la première personne, et dans le corps du livre, lorsqu'il est question du passé, vous écrivez à la troisième personne en utilisant le prénom qui est le vôtre, le prénom de Violaine, comme si évoquer le passé, ça demandait une distanciation qui n'est pas utile, qui n'est pas nécessaire quand vous racontez au présent.
Oui, je voulais voir, à travers l'exercice de la fiction, s'il était possible de regarder l'histoire autrement. Donc avec cette distance narrative d'une narratrice devenue omnisciente, est-ce qu'on découvrirait autre chose de ce personnage?
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Violaine Huysmans qui publie Rose Désert chez Gallimard, alors on l'a dit, vous utilisez des mots très explicites, très visuels aussi, très sensuels au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on voit, on sent, on touche, on entend, on goûte. Vous avez une écriture à la fois très réaliste, très simple, mais sans effet, sans affaîtrie, et en même temps il y a une forme de poésie. C'est vraiment singulier. Qu'est-ce que vous recherchez lorsque vous écrivez? Est-ce que vous avez envie que le lecteur ressentent au plus profond de lui-même quelque chose, ou imagine? Est-ce que c'est des images que vous voulez créer?
Dans l'idéal, j'aimerais les deux. J'aimerais que ce soit à la fois des sensations et des images, un peu comme un voyage, quand vous êtes dans une terre inconnue, et vous vous promenez, vous sentez, il y a des odeurs, des sensations, des paysages.
Et le désert, notamment, il y a des paf, très très belle sur le désert, notamment sur la lumière du désert quand l'héroïne se rend à Shingeti. Vous connaissez la phrase d'Héraclite, Violaine Huysmans, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Est-ce que c'est vrai pour un écrivain?
Oui, tout à fait. Et je trouve ça intéressant que vous disiez ça, en fait, parce que d'une certaine manière, mes deux romans racontent en partie la même histoire. Et pour moi, il la raconte de manière extrêmement différente, et la phrase d'Héraclite dit aussi qu'on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, c'est-à-dire que vous pouvez vous baigner à nouveau dans le même fleuve, mais pas de la même façon, et vous le ressentirez pas de la même façon, et le fleuve aura évolué depuis. Et c'est exactement ça, en fait. C'est toute histoire change à travers le temps, à travers le regard, et je pense que c'est vrai de chacun, de l'expérience individuelle de chacun. Et certainement, en littérature, je pense que d'explorer un thème, une idée, des personnages de plein de façons différentes, à travers des perspectives différentes, je trouve ça très riche.
Merci. Merci beaucoup, Violaine Huysmans. Rose Désert est paru, je le rappelle, aux éditions Gallimard.
Merci à vous.
Vous m'en direz des nouvelles. Main d'œuvre.
Fanny Blechner.
Aujourd'hui, je suis
un univers de subtilité. Je m'appelle Célia Suzanne et je suis marketeuse. Alors, la marqueterie, c'est un savoir-faire qui consiste à réaliser des décors pour orner du mobilier ou du revêtement mural. On peut travailler sur des accessoires de mode, sur des bijoux, sur vraiment tout type de support. Alors, moi particulièrement, je travaille les essences de bois précieux, la paille de seigle, les cuirs, le parchemin et la feuille d'art. En fait, tout ce qui peut être découpé par des outils manuels, comme la scie à chantonner de marqueteur, ou par des outils numériques comme les découpes laser, on peut utiliser toutes ces matières pour faire de la marquetterie. Donc, ça ouvre vraiment même au textile, aux matières plastiques, aux différents métaux. C'est une technique de découpe et d'assemblage vraiment minutieuse. Et donc, du coup, ça consiste en plein de petits gestes très précis et très répétitifs. Alors, la première étape, c'est de réaliser un tracé, donc le motif qui va me servir à découper chacune de mes pièces pour la marqueterie. Une fois que j'ai mon motif, je viens isoler chacune des pièces qui vont être associées à une matière. Et donc, je viens coller les pièces sur mes matières que j'ai montées en paquet. C'est un espèce de sandwich, on peut dire ça comme ça. Et je viens presser entre deux plaques de plaquage basique qui va me servir de martyre. Et donc ensuite, je vais découper sur la scie à chantonner. C'est une étape qui est assez longue. En fait, parce qu'à chaque fois que la pièce va être loupée, il va falloir recommencer pour qu'à l'incrustation, on ait vraiment quelque chose de parfait. Et une fois que j'ai toutes mes pièces, donc je les assemble, je recompose mon motif et après je viens plaquer sur le support définitif. J'assemble mes pièces, je les pose les unes à côté des autres et après je viens les coller sur le support avec une colle à bois ou avec une colle qui est adaptée au matériau. En fait, ça passe sous une presse. Donc, pour les grands formats, on a un grand châssis à plaquer d'ébéniste. Et donc, ça reste serré pendant plusieurs heures. Et ensuite, c'est définitivement collé. Donc, ensuite, on peut passer à la finition. Et selon les matériaux, on va avoir des traitements de surface différents. Et la feuille d'or, on vient vernir au tampon après. La feuille d'or, c'est vraiment l'étape que je fais en tout dernier, parce que c'est une matière qui est très fragile. Et justement, après, je viens simplement vernir. Donc, c'est vraiment la dernière étape. Alors, ma particularité, c'est de travailler vraiment le noir, toutes les nuances du noir, avec des matières qui vont avoir des luminosités différentes, des textures différentes. Et mes motifs sont très minimalistes et épurés. Et donc, on est souvent sur des assemblages géométriques, en fait. Alors là, je travaille la paille de seigle et du plaquage de bois. Ici, un poirier noirci. Ce sont que des matières qui sont teintées en noir. Et donc la paille de seigle va avoir la particularité d'être très lumineuse, vraiment soyeuse, alors que le plaquage de bois va être plus mat et satiné. Donc je joue vraiment avec la lumière pour révéler tous les détails, toutes les nuances de ces matières. Et au final, on va vraiment créer des univers très très particuliers qui sont complètement changeants en fonction des heures de la journée, de la luminosité, du regard de la personne aussi.
Aujourd'hui, j'étais
un univers de subtilité
sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec nous cette semaine, Amélie Beaucourt, Margot Turgy, Alain Pilot et Sébastien Gédor. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Jean-François.
Bonjour à toutes et à tous.
Et cette semaine, Alain, un trio en trois mots, Naïve, New Beaters.
Groupe français qui peut rivaliser aisément avec ses confrères anglo-saxons et publie son quatrième album Fun Hours. Et du fun, il y en aura au cours de cette rencontre avant son concert parisien du 8 novembre au Trianon.
Avec vous, Amélie, on va plonger dans l'univers intrigant d'un jeune auteur de bande dessinée néerlandais, Pim Boss.
Oui, un univers sombre, peuplé de créatures toutes plus étranges les unes que les autres. Ça s'appelle Tremen, c'est une bande dessinée et ça grouille de mystères que j'ai tenté de percer.
Vous, Sébastien, vous allez nous emmener dans une exposition au titre pour le moins provocateur.
Le titre, c'est « Ne les laissez pas lire », c'est à la Bibliothèque nationale de France et c'est consacré au livre pour enfants et à la censure à laquelle ce livre pour enfants fait face depuis le XXe siècle.
Quant à vous, Margot, vous êtes venue avec une vieille connaissance. Il a de longues canines, il porte une cape noire, il a le teint blafard et raffole du sang humain. Le vampire est une créature légendaire qu'on ne présente plus, ce mythe européen qui trouve notamment ses racines dans la mythologie grecque. C'est invité dans notre vocabulaire au début du XVIIIe siècle, ça ne date donc pas d'hier. L'art s'y est très vite intéressé, en particulier le cinéma. Et c'est ce que nous raconte cette exposition, la nouvelle exposition de la Cinémathèque française à Paris. Elle est intitulée « Vampire de Dracula à Buffy ». Et Margot, on est tout de suite plongé dans l'univers de cette créature mythique.
Oui, Jean-François, imaginez une pièce sombre avec des murs et un sol complètement noir, une vitrine en forme de cercueil et des cris glaçants. Pas de doute, on est bien dans un château hanté.
Celui où habite donc le fameux vampire.
Oui, l'exposition fait d'abord un petit point historique avec les vampires classiques. Il y a bien sûr Dracula, du nom du livre de Bram Stoker, sorti en 1897, qui a inspiré le 7e art, incarné à l'écran par le légendaire Bela Lugosi.
I am Dracula.
On retrouve aussi des extraits de Nosferatu le vampire, un célèbre film muet des années 20.
Mais l'exposition ne présente pas le vampire uniquement comme un monstre assoiffé de sang.
Loin de là, parce que le vampire est un personnage complexe avec notamment une réelle dimension politique, Mathieu Orléans est le commissaire de l'exposition.
Il y a une très belle couverture de magazine qui montre le président Bush en train de mordre, de dévorer la statue de la liberté. C'est vraiment l'idée que ce président aurait pris comme ça au moment des guerres en Irak en otage les États-Unis. Il les aurait mordus, les aurait dévorés, les aurait transformés. Et donc c'est une image qui évidemment est très parlante pour tout le monde. Ces caricatures, elles viennent dans le sillage d'autres caricatures plus anciennes, en 1870, pour faire peur autour de la présence allemande, de la guerre qui ensuite va se poursuivre en 1914, puis en 1945. Évidemment, des dessins anticapitalistes qui vont représenter aussi les industriels en vampires. Donc tout un lot, effectivement, de vampires qui continuent d'habiter l'imaginaire de tout le monde. Et on a voulu montrer que c'est pas uniquement, effectivement, dans l'art, mais aussi dans la presse, que ce soit la presse d'aujourd'hui ou du passé, qu'on voit, effectivement, surgir des vampires. Et c'est le cas toujours aujourd'hui, si vous descendez dans une manifestation, vous allez voir des hommes politiques d'aujourd'hui ou des symboles d'aujourd'hui transformés en vampires.
Le vampire n'est pas qu'un symbole politique, c'est aussi une figure érotique. On s'attarde sur cette facette du mythe dans une salle entièrement couverte de rouge, la couleur du sang et de l'érotisme.
Je vous aime trop pour vous donner.
Ce qu'on entend, c'est un extrait du Dracula de Francis Ford Coppola, sorti en 1992, porté par Winona Ryder et Gary Oldman. Il incarne à la perfection la dimension érotique du vampire. Les costumes des deux acteurs sont d'ailleurs présents dans l'exposition.
Et depuis le début du 21e siècle, le cinéma et les séries télé ont fait apparaître un autre type de vampire.
Oui, Jean-François, c'est d'ailleurs la conclusion de l'exposition, l'avènement du vampire pop qui commence au début des années 2000. Edward Cullen dans Twilight, Johnny Depp dans le film Dark Shadow de Tim Burton ou encore les personnages de la série américaine True Blood, des vampires qui sont plus proches de nous, Mathieu Orléans.
C'est plus l'autre qui fait peur, le monstre avec ses crocs, avec ses dents de serpent. Le vampire, c'est quelqu'un qu'on pourrait avoir chez soi, c'est l'adolescent qu'on a en nous, ou la minorité qu'on a en nous, les doutes, les questionnements, les névroses. Le vampire, finalement, après tout ce cheminement, aspire quelque part à être comme nous, cool, heureux, intégré à la société.
Bref, le cinéma s'est donc, depuis ses débuts au XXe siècle, passionné pour cette figure du vampire, et d'ailleurs sous plein de formes différentes.
Cet amour peut en partie s'expliquer par les points communs qui existent entre le 7e art et le vampire. C'est en tout cas l'hypothèse de Mathieu Orléans, le commissaire de l'exposition.
Le vampire vit dans un cercueil, il vit dans un tombeau. Le cinéma se tourne dans un studio coupé de la lumière qui pourrait être une sorte de cercueil grandeur nature. Le cinéma ne montre jamais les caméras ou les réalisateurs qui se reflètent dans les miroirs. Le cinéma embaume, immortalise pour toujours des acteurs dans l'âge qu'ils ont au moment où ils tournent, et ils ont beau vieillir dans la réalité, le cinéma est une mémoire de leur immortalité, de leur éternité. C'est encore plus flagrant pour des acteurs qui meurent très jeunes. Il y a quelque chose là qui se joue qui, à mon avis, fait du cinéma un peu un art des vampires. Cinéma, pour finir, qui se projette dans le noir, qui est un art des salles obscures, des ténèbres qu'on ne peut pas voir à la lumière et qui a donc un lien presque identitaire, viscéral, essentiel avec le fantastique, le gothique, l'hypnose. On peut dire que le cinéma est un art vampirique.
Un art vampirique qui, vous l'aurez compris, s'efforce de dépeindre un personnage particulièrement complexe, et dans le public, chacun a sa propre représentation du vampire.
Pour moi, ça représente quelqu'un de très sexy.
Moi, c'est le sexe en premier. Il y a énormément de films qui montrent les scènes de substantation des vampires comme en fait quelque chose d'extrêmement sexuel, et aussi une inversion des rapports de force où, par exemple, les hommes qui, en général, ont les ascendants sur les femmes en termes de force, et ben là, on va voir des femmes qui se nourrissent des hommes et du coup prennent le contrôle.
Surtout la peur. J'associe plutôt le vampire avec les loups-garous, Frankenstein, les sorcières, et moi avec justement ce côté sexuel et érotique.
Moi, ça m'évoque surtout un monstre.
Créature étrange, fantastique, mais monstre, non. Peut-être parce que j'y vois un peu d'humanité quand même dans cette figure.
Une figure qui va à coup sûr continuer de hanter nos salles obscures pendant encore très longtemps.
Merci Margot. Vampire de Dracula à Buffy, c'est à la Cinémathèque de Paris jusqu'au 20 janvier 2020 avec une série de projections de films assortis naturellement. Allez, on embarque sur une autre planète avec vous, Amélie. Un monde gris, quasi désertique, dans lequel cohabitent d'étranges créatures et de drôles de machines. La bande dessinée que vous nous présentez s'appelle Tremen. Elle est signée Pim Boss, un jeune dessinateur néerlandais. Et elle met en scène un drôle de personnage en armure.
Oui, on ne sait pas trop qui il est, ni ce qu'il fait là. Mi-homme, mi-extraterrestre, peut-être. Il porte des lunettes de chimiste. Et derrière, son visage ressemble à une espèce de chewing-gum mâchonné. Il chevauche non pas un cheval, mais une sorte de marmite en acier avec quatre longues pattes, ou bien est-ce une capsule spatiale, c'est difficile à dire. Tout est dessiné avec des nuances de gris, de grandes étendues presque désertiques. Est-ce une autre planète ou bien est-ce la Terre dans une centaine d'années? Cette bande dessinée tout entière est un gigantesque mystère, Jean-François.
Oui, en plus elle est totalement muette, hein, comme si le langage n'existait pas dans ce monde ou à cette époque-là.
Oui, complètement dépourvu de mots, aucun sous-titre, aucune bulle. Les personnages qui se baladent dans cette BD ne communiquent pas, pas par la parole en tout cas. Ça renforce le côté mystérieux du scénario, mais cette forme de silence imposée au lecteur ajoute une dimension encore plus étrange, voire inquiétante. C'est un peu le calme avant la tempête, ou au contraire l'atmosphère meurtrie après la bataille. Bon, quoi de mieux pour être fixé que de demander à Pim Boss en personne?
Bien sûr.
Sauf que ce jeune dessinateur qui nous vient des Pays-Bas est tout aussi énigmatique que ses dessins.
The visuals, visuellement, on est dans un univers de science-fiction, mais l'histoire en elle-même n'est pas de la science-fiction. En fait, il n'y a pas d'idée précise sur ce qui s'est produit avant que ce monde devienne gris comme il est. Peut-être qu'il était beau et coloré avant de s'effondrer, on ne sait pas. Et il est tellement différent de notre monde actuel qu'il y a quelque chose de post-apocalyptique. Mais en fait, tout dépend de ce que vous voulez y voir, vous. C'est simplement un monde différent avec des règles différentes.
Alors, quelles sont ces fameuses règles, Amélie ?
Alors, impossible de le savoir, Jean-François, le scénario et le dessin laissent toute la place aux interprétations les plus farfelues qui soient. Quelqu'un de terre à terre pourrait y voir un message écologique ou une alerte contre la domination de l'homme par la machine. J'ai insisté, Jean-François, mais Pim Boss semblait déterminé à me prouver que ma quête de sens ne servait pas à grand-chose. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est de dessiner ce qui lui plaît, et notamment des machines en tout genre, à la croisée entre vaisseaux spatiaux et animaux robotiques.
Je pense que les machines sont plus intéressantes lorsqu'on les regarde avec des yeux d'enfant. Quand on est jeune, on voit ces espèces d'engins avec des tubes sans savoir à quoi ils servent. C'est ça que je voulais recréer, cet émerveillement. Lorsqu'on voit quelque chose pour la première fois, en grandissant, cette capacité d'imagination disparaît à mesure que notre compréhension du monde s'élargit. Donc j'ai voulu créer quelque chose de différent pour me surprendre moi-même.
J'ai donc voulu savoir d'où venait cette inspiration pour concevoir des objets et des personnages aussi bizarres. Et voici ce qu'il m'a répondu.
C'est d'abord beaucoup de drogue. Non, je plaisante. Ce sont avant tout des personnages que j'ai imaginés, avec lesquels j'ai construit une histoire. Ils sont nés quelque part dans ma tête. C'est un peu difficile à expliquer. Je bois juste beaucoup de café. J'ai toujours un crayon et un papier avec moi. Puis je me mets à reproduire tout ça sur mon ordinateur. Tout est digital. Et mes idées me viennent à tout moment, sauf quand je suis en train de dessiner. Quand je suis dans le métro, quand j'attends le bus, ça me vient vraiment n'importe où, sauf derrière le bureau sur lequel je dessine. Mais c'est la plus grosse partie du travail, trouver des idées, les développer dans sa tête et ensuite seulement les coucher sur le papier. Je me suis inspiré de beaucoup d'auteurs de bandes dessinées, comme Philippe Druyer, Enki Bilal, Moebius bien sûr, Don Laurence et surtout Paolo Serpieri.
Oui, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ou qui, comme vous me l'avez dit, Amélie, ne sont pas aussi vieux que moi, merci. Paolo Serpieri, c'est un scénariste et dessinateur de BD italien des années 90, à mi-chemin entre la science-fiction et l'érotisme.
Oui, c'est sa saga Druna qui a inspiré Pim Boss. Elle se déroule justement dans une société post-apocalyptique dans laquelle un virus transforme les hommes en bêtes assoiffées de sang.
Une autre référence est cachée dans l'album, Amélie, et cette fois ce n'est pas un dessinateur, mais à un peintre qu'on a affaire.
Oui, en tournant les pages de l'album, vous tomberez nez à nez avec une planche très familière puisqu'elle reprend exactement les mêmes codes que le célèbre tableau Night Hawks de Edward Hopper. Vous savez, celui où on distingue trois personnes accoudées au bar d'un restaurant en pleine nuit, et ce clin d'œil n'est pas là par hasard.
Il y a une référence à Hopper, effectivement. J'admire beaucoup son travail et je voulais capturer cette même idée de solitude. Cette scène est venue assez naturellement, en fait. Avec Hopper aussi, les gens étaient à la recherche d'un sens et ils ont cru que ce tableau représentait le fait d'être seul dans une grande ville. Mais en réalité, ce n'était pas du tout son intention à lui. Et pour moi, c'est pareil. Je dessine simplement ce qui me vient à l'esprit, comme pour beaucoup d'artistes. On fait ce qu'on peut avec nos idées, on ne se laisse pas vraiment le choix.
Allez, encore un petit mystère pour la route, Amélie. Le titre de l'album Tremen, qui apparemment signifie passage en breton.
Oui, c'est Marc Caro, le réalisateur du film Delicatessen, qui fait ce rapprochement dans la postface de l'album qu'il a signé. Mais encore une fois, les apparences sont trompeuses, il s'agit juste d'une coïncidence.
Why did I name my book Tremen?
Pourquoi j'ai appelé mon livre Tremen? C'est une question qu'on me pose souvent. C'est bête, mais j'aimais ce nom. Il y a 6 lettres dans son nom, il y a 6 lettres dans Tremen. J'ai pensé que ça irait bien ensemble sur la couverture. À l'origine, c'était un faux nom de famille que j'avais inventé il y a des années pour faire une blague au téléphone à l'un de mes amis. Et puis c'est resté. Je me suis dit que ça ferait un bon titre parce que les gens allaient justement me demander sa signification, allaient forcément chercher à y trouver un sens. Bon, apparemment, ça a vraiment un sens en breton. Alors je n'ai pas si mal choisi que ça.
Bref, Pimbos ne dessine pas pour être compris, mais pour être regardé. Et c'est peut-être ça la clé du mystère de cette BD. Laisser au placard notre soif de sens et se laisser bercer par un trait, une forme, une touche de couleur. Et arrêter de vouloir à tout prix lire entre les lignes.
Merci en tout cas d'avoir bien voulu essayer, Amélie Beaucourt, dans le Café Gourmand de VMD. Les comic strips, les bandes dessinées, plus largement les livres jeunesse à l'honneur à la Bibliothèque Nationale de France à Paris, plus précisément la censure, quel vilain mot la censure qui a ciblé ou qui cible les livres jeunesse. L'exposition s'intitule « Ne les laissez pas lire, Sébastien, le livre pour enfants et les polémiques qu'il suscite », c'est tout simplement le reflet de la société.
Oui, et l'exposition commence en 1904 avec un certain abbé Bethléem qui publie un guide de ce que les catholiques peuvent lire ou pas, un sacré personnage que ce religieux. Son portrait avec Marine Planche, conservatrice du Centre National de la Littérature pour la Jeunesse à la BNF.
Il a eu un rôle très important parce qu'il s'est intéressé au sujet assez tôt. Il a publié dès 1904 un livre qui s'appelle « Romans à lire et romans à proscrire ». Qui s'intéressait pas seulement aux livres pour les enfants, hein, il s'intéressait à la fiction de manière générale, ce qui déjà était assez nouveau, puisque le fait que les catholiques puissent lire autre chose que de la littérature religieuse, c'était déjà une ouverture relative. Néanmoins, donc, dans le domaine de la fiction, il opérait une classification des ouvrages de fiction selon différentes catégories en fonction de leur degré de nocivité, en commençant par les auteurs ou bien les œuvres qui étaient mises à l'index par l'Église, bien évidemment, comme George Sand, pour ses convictions politiques.
George Sand, cette affreuse socialiste romantique, l'abbé Bethléem s'en prend aussi aux BD, comme les Pieds Nickelés, Jean-François, vous vous souvenez?
Ah oui.
Ces trois filous qui ont le malheur d'être publiés dans le journal L'Épatant, en plus à l'époque, L'Épatant est propriété des frères Hoffenstadt, un de ces journaux, je cite, « malsains criminels dirigés par des juifs, des allemands et des pornocrates ».
Bref, malgré ses dérives antisémites, Sébastien, cet abbé Bethléem va connaître une belle postérité.
Oui, avec la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, cette loi reprend une partie de ses idées. Cette loi qui a été aménagée depuis, mais qui est toujours en vigueur aujourd'hui en France, interdit les publications qui démoraliseraient les enfants. Démoraliser dans le sens d'enlever le sens moral.
Et après la Seconde Guerre mondiale, ce sont surtout les comics américains qui sont dans le collimateur, Captain America, Flash et consorts.
Avec une sorte de sainte alliance entre la droite et les communistes très puissants à l'époque.
Tout à fait, il y a vraiment un consensus qui s'installe sur cette question de la nocivité des illustrés et en particulier des bandes dessinées qui viennent des États-Unis, qui sont très répandues dans la presse pour les enfants à l'époque depuis l'arrivée du journal de Mickey en 1934. Et donc ça ensuite, juste après-guerre, ça va être les premiers super-héros et puis le personnage de Tarzan aussi, qui est lui très 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 mal vu par les élites de l'époque. Et on voit
pourquoi
que ça, parce que déjà il n'est pas beaucoup habillé, premier défaut.
Jane non plus.
Jane non plus. Alors il y a aussi eu des cas de censure dans les premiers films de Tarzan, hein, où il y a une fameuse scène où ils nagent tous les deux nus et ça c'est pas été très bien vu. Il y a un consensus assez large juste après-guerre pour considérer que ces publications sont nocives pour les enfants et sont une des sources de la délinquance juvénile qui est assez forte à ce moment-là, où on a beaucoup d'enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes, il y a beaucoup d'orphelins, il y a un climat d'anxiété très forte de la part des adultes, de panique morale on peut dire, et on cherche un coupable, et ce coupable ce sont les illustrés et les comics.
Et pour les livres pour enfants, Mai 68 va tout changer, Sébastien.
Grand souffle de liberté. Après mai 68, Jean-François, de nouveaux éditeurs affirment qu'on peut parler de tout, y compris de sexe, aux enfants. Exemple, le livre « Les filles » paru en 1974 aux éditions des Femmes et que l'on feuillette avec Marine Planche, la commissaire de l'exposition de la BNF.
Il y a la volonté de s'adresser vraiment aux petites filles et d'en faire des femmes libérées, on va dire, avec ce livre qui est assez révolutionnaire vraiment dans son contenu où une petite fille va expliquer... tout ce que c'est qu'être une fille, de haut en bas.
Une petite fille qui rêve de devenir architecte.
Voilà, architecte, mère, et tout ça à la fois. Et dire qu'elle peut rêver à tout et qu'elle est légitime à le faire. Et donc elle explique tout ça à un petit garçon qui la regarde un peu ébahi.
Mais même de nos jours, Sébastien, le livre pour enfants continue de faire polémique.
Oui, je vous cite certains titres. Jean a deux mamans, Tango a deux papas. Ce sont des livres qui restent en travers de la gorge de ceux qui s'opposent au mariage pour tous. Il y a 5 ans, le maire UMP de Meaux, près de Paris, Jean-François Copé, lui, s'en prenait en direct à la télévision au livre intitulé « Tous à poil ».
Comme c'est nos enfants, on n'a pas envie de sourire. Alors vous voyez les dessins, voilà. Donc on tourne les pages. À poil le bébé, à poil la babysitter, je tourne les pages, à poil la mamie, à poil la maîtresse... Vous voyez, c'est bien pour l'autorité des professeurs. À poil la chanteuse, nous avons à poil le docteur, à poil le président directeur général. Bah oui, bien sûr.
Et cette tentative de censure, on l'a retrouvée récemment au Brésil avec le président d'extrême droite Jair Bolsonaro qui s'attaque à un best-seller des cours de récréation.
Effectivement, c'est le guide du zizi sexuel de
Zep,
dans sa version brésilienne, hein, qui a eu un certain succès au Brésil et qui a été accusé par Jair Bolsonaro. Au moment de la campagne présidentielle, c'était avant qu'il soit élu au journal télévisé.
Orando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay.
Donc lui aussi a sorti le livre, l'a brandi en disant regardez, ce livre fait partie d'un kit gay qui est distribué dans toutes les écoles et dans toutes les bibliothèques. Et ce qui l'a beaucoup offusqué en particulier, c'est une des pages du livre où il y a un trou dans la page et où on peut mettre son doigt à la place du sexe du petit garçon.
Jair Bolsonaro qui se serait sûrement très bien entendu avec l'abbé Bethléem, le censeur du début du XXe siècle, Jean-François.
Ne les laissez pas lire, c'est en ce moment à la BNF à Paris jusqu'au 1er décembre. Icy Fire, Naive New Beaters, avec à leur côté au chant Anna Zimmer, extrait à l'un de leur nouvel album Fun Hours.
Les heures amusantes en français dans le texte et les heures groovantes de la musique, c'est avec ceux-ci qu'ils les ont faites en 2016.
Ill Tomorrow, Naive New Beaters avec Izia Higelin, tirée de À la Folie, la fille de Jacques Higelin, bien sûr, qui n'apparaît pas cette fois sur leurs 12 nouvelles compositions. Et pour ce retour, Alain, vous avez rencontré les 3 musiciens, David Boring, Eurobelix même d'ailleurs, c'est comme ça je crois qu'il faut prononcer.
Exact.
Et puis Martin Luther B.B. King.
Qui ne sont pas dénués d'humour, leurs pseudos en sont déjà une bonne preuve. Nos 3 nouveaux beaters naïfs expliquent par exemple que ce Fun Hours reflète la société actuelle de l'immédiateté, le refus de la tragédie, tel l'orchestre sur le Titanic qui a joué jusqu'à ce que le bateau coule entièrement. Un disque plus dans ta tronche, une sorte d'agressivité sentimentale et dansante à la fois, disait-il de À la Folie. Et de celui-ci, qu'en disent-ils? Qu'il s'agit par exemple d'un bonbon coloré qui colle aux dents, dont on ne se sépare pas facilement?
Pas mal, ouais.
C'est
une sérénité dansante et joviale.
Ouais. Alors c'est bon, on s'est dit qu'on s'était un peu adouci, on était un peu moins énervé, un peu plus qu'on avait pris plus de temps aussi pour faire notre musique, on avait fait plus de, comme il disait, peut-être plus d'aller-retour à droite à gauche dans différents contextes, et que ouais, je sais pas, c'était un album plus sympa, peut-être plus sympa.
Naïve Five New Beaters, Make May, avec la participation de Jean Jass. On en sait un petit peu plus, Alain, sur l'intention musicale avec ce disque, mais dans le fond. Maintenant, qu'en est-il?
Le précédent évoquait les relations hommes-femmes parce que leurs copines les avaient quittés tous les trois pendant le deuxième album. Et donc, À la folie était un peu la cristallisation de leurs sentiments au travers de la musique. Cette fois, c'est un peu la réaction des conséquences positives de ces non-ruptures. Et ce n'est non pas l'album de la maturité, mais de l'amateurité, m'ont-ils soufflé. Naïve New Beaters, un groupe qui chante If Everybody Say Yeah. Alors, importance de placer un yeah dans un morceau, monsieur.
J'avoue. Oui, oui. Bah, c'est facile, mais c'est efficace et ça fait plaisir. Bah, je sais pas, moi, c'est un des morceaux que, bah, justement, en résidence, quand on était à Poitiers, c'est, comment il s'appelle, One Way to Go.
One Way to Go.
Morceau que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Les autres aussi, mais celui-là, il est, je sais pas, plus joué aussi.
Et d'ailleurs, quand tu parlais de notre premier concert de chauffe, là, et ben, justement, on se disait, bon, One Way to Go, les gens, ils vont pas trop kiffer. Et ben là, grosse surprise, ils ont grave dansé, ils ont grave aimé, ils ont même applaudi.
Et je pense que crier yeah tous ensemble, c'est quelque chose de...
Ah, il y a eu un truc fédérateur.
Voilà, ouais. Exactement.
One Way to Go, Naïve New Beaters, qui est en tournée actuellement, Alain, le concert. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose qui leur tient particulièrement à cœur.
À chaque fois, c'est le respect du public. Ils ne comprennent pas les gens qui jouent en tenue de tous les jours. Pour eux, ça fait partie du spectacle. Dès leur premier concert, David Boring a interdit à ses deux compères de monter en polo sur scène. Autre élément essentiel, trouver une bonne intro. Où en sont-ils de ce côté-là?
Ah, mais c'est drôle parce que non, on croyait, on a fait un morceau en intro.
C'était un fiasco.
Un bide.
Ouais, ouais, un gros bide. Deuxième morceau qu'on se disait la suite de l'intro, bah pareil, bide. Donc là, on est en réflexion. Il va falloir peut-être, je sais pas, allonger une intro, faire un truc d'un morceau existant. Enfin bon, on va trouver une solution.
On leur fait confiance, ils vont la trouver, la solution. Cet opus intitulé Fun Hours m'a donné envie de savoir quelle était pour chacun d'entre eux leur heure la plus fun, la plus amusante.
Moi, j'aime Martine. Beaucoup midi 34, mais ça sert à rien à voir, c'est parce que j'ai toc avec les chiffres. Mais voilà.
Bah, moi, je crois que je vais dire 11h11 pour être un peu girly, quoi.
Comme Paris Hilton.
Oui, voilà, make a wish.
Yorbelix, il a eu le temps de réfléchir.
Bah, je vais rester fidèle à ma réputation, je vais dire l'heure de l'apéritif.
Donc 6h du matin. Merci infiniment à tous les trois.
Merci. Trop la classe.
Fun Hours, le titre qui donne son nom au nouveau disque des Naïve New Beaters en concert le 8 novembre au Trianon à Paris, le 30 à Bordeaux dans le sud-ouest de la France et en tournée dans l'Hexagone. Fun Hours, c'est chez Capitol Universal. Merci à tous, Alain, Amélie, Margot et Sébastien étaient avec nous aujourd'hui pour ce Café Gourmand. Le journal dans un instant, on se retrouve lundi avec Hors Normes, le nouveau film du tandem Nakash Toledano qui nous avait entre autres régalé avec le film Intouchable et vous m'en direz des nouvelles.
Faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.